Bonjour à toutes et à tous. Il est 12h30, donc je prends la parole simplement au cas où il y a quelques retardataires, donc ça leur laisse le temps d'arriver. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce dernier café débat entre midi et sciences de la saison, hein, je vous rassure. Donc on est en train de préparer la programmation de la saison prochaine qui démarrera au mois d'octobre jusqu'au mois de mai, donc 2023-2024. Hein. Ça nous emmène déjà si loin. Pour aujourd'hui, le dernier café débat de la saison s'inscrit dans l'exposition Glacier, une aventure scientifique, dans le sens où elle ouvre des perspectives et peut-être quelques réflexions sur justement l'avenir de nos glaciers. Aujourd'hui, nous intéressons aux limites planétaires. Donc nos questions, finalement, c'est quelles sont-elles, combien sont-elles? Et nous avons voulu avoir un angle un petit peu différent, c'est interroger une historienne que nous commençons à bien connaître à la Galerie Rocca, puisque vous étiez venu il n'y a pas si longtemps que ça pour nous parler de l'histoire des femmes dans la littérature et dans les livres d'histoire. Et aujourd'hui, on voulait savoir un petit peu d'où venait ce concept d'effondrement planétaire, peut-être de collapsologie. Je pense que c'est un terme qui est très à la mode pour les gens que nous connaissons, mais en tout cas qui est très utilisé dans les médias. Donc voilà, on voulait en avoir une définition un petit peu précise, savoir un petit peu d'où venaient tous ces éléments. Donc Corinne Bonafou est donc historienne, chercheur, maîtresse de conférences à l'Université de Savoie. Donc merci infiniment d'avoir encore répondu favorablement à notre appel. Donc vous connaissez le principe, je le rappelle pour ceux qui viendraient pour la première fois. C'est un café scientifique hybride, dans le sens où on va demander à notre intervenant de nous exposer un petit peu ce sujet. Et ensuite, nous aurons les 30 autres minutes à peu près pour justement vous questionner, échanger avec vous et peut-être débattre si besoin, puisque nous sommes dans un café débat. En tout cas, merci à vous et merci Madame Bonafou d'avoir accepté l'invitation et je vous laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de terminer donc le cycle des cafés citoyens de la Galerie Eureka. Alors, on a bien fait de vous préciser effectivement que je suis historienne et donc ce n'est pas moi qui vous donnerai des explications scientifiques en rentrant dans le détail d'un certain nombre de démonstrations. Mais ce qui m'a intéressée effectivement, c'est de remettre cette histoire un petit peu en perspective. Parce que si on parle des limites planétaires, alors je ne sais pas parmi vous combien ont déjà entendu parler ou savent ce que sont les limites planétaires. Voilà, ceux qui en ont entendu parler, quelques-uns, voilà, peut-être pas la majorité. Ça apparaît en 2009 et en fait ça revient à réfléchir aux limites de la croissance. Mais la question des limites de la croissance, elle a été posée bien plus tôt. Alors, je ne vais pas repartir au 19e siècle parce qu'en réalité ça a été posé bien plus tôt. Mais pour ce qui concerne notre monde contemporain, ça a été vraiment posé en 1972 avec la publication du rapport Meadows. L'an dernier, Denis Meadows, qui est toujours vivant, est venu à Lyon présenter la dernière édition de ce rapport. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me questionner. Il y a déjà 50 ans. Il y a déjà 50 ans que des rapports scientifiques, en gros, ont conclu, on va le voir, qu'une croissance, dans un monde fini, avec des ressources finies, n'est pas possible. Que s'est-il passé pendant ces 50 ans? Voilà, c'est un petit peu le déroulement de ce que je veux faire avec vous là dans cette demi-heure. Alors, il y a sur ce rapport Meadows aujourd'hui, il est peut-être un peu plus connu qu'il y a quelques années. J'ai mis ici quelques liens pour aller vers des commentaires de ce rapport Meadows. Alors, ce rapport Meadows, d'où sort-il? En fait, il a été commandé. Il a été commandé par une sorte de think tank, qui est le Club de Rome, qui regroupe des économistes, des hommes d'affaires, des scientifiques. Et la question qui était posée, et il faut bien se rendre compte qu'au moment où le Club de Rome, qui est né en 1968, lancé par, comme je vous l'ai mis sur la diapo, l'Italien Aurelio Peccei, qui est l'ancien patron de Fiat, on est encore complètement dans la lancée de ce que Fourasti a appelé les 30 glorieuses. C'est-à-dire on est habitué à avoir des taux de croissance qui sont très élevés et cette croissance, elle est vue comme totalement bénéfique. Elle permet une amélioration du niveau de vie, etc. Et donc c'est dans ce contexte-là que cette question est posée. Et ils vont confier ce travail à une équipe de jeunes chercheurs du MIT aux États-Unis en disant, ben voilà, vous allez essayer de travailler sur cette question, quels sont les effets d'une croissance exponentielle à la fois de la population et de la consommation de ressources non renouvelables dans un monde fini. C'est ce à quoi s'attelle cette jeune équipe. Et la nouveauté, peut-être, c'est qu'ils vont essentiellement travailler en essayant de modéliser un système et de modéliser un système complexe. Alors, il y a plusieurs phases, je dirais, dans ce rapport Meadows. D'abord, ils analysent les données, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avant 1970. Mais ensuite, pour répondre à la question, quelles vont être les conséquences ? Il faut se projeter dans l'avenir. Donc là, il faut faire des sortes de scénarios d'anticipation avec des hypothèses. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir. Donc, lorsque le rapport est publié en anglais, c'est « The Limit to Growth », les limites à la croissance. En français, ça a été traduit par un titre un peu plus punchy, c'était « Halte à la croissance ». Voilà. Alors, ils partent d'abord d'un certain nombre de constats en essayant de travailler sur quatre variables, hein, la population, la production industrielle, la demande alimentaire et la pollution. Alors, pour les constats, pour ce qui est de l'ordre d'une croissance exponentielle, il est évident que la croissance de la population offre complètement un exemple de croissance exponentielle. Vous avez dans le second tableau à droite, hein, simplement l'évolution depuis 1650. Vous voyez qu'on franchit le milliard d'habitants autour de la moitié du 19e siècle et qu'ensuite la croissance s'accélère complètement. S'il y a des questions là-dessus, on pourra y revenir de pourquoi cette croissance, c'est ce qu'on appelle la transition ou cette croissance. Mais bon. Ils étudient aussi la consommation des ressources. Elles ne sont pas toutes consommées avec le même rythme, je dirais, d'accélération. On voit par exemple que l'aluminium et le cuivre font partie de ressources dont la consommation augmente énormément depuis les années 1950. Évidemment, si on avait mis là l'énergie, le pétrole, le gaz, etc., nous aurions aussi un genre de courbe similaire. Alors maintenant, pour répondre à la question, il va falloir modéliser. Et pour modéliser, il va falloir aussi mettre en place les interactions qu'il y a entre différents facteurs et prendre en compte les boucles de rétroaction. Les boucles de rétroaction, elles peuvent être négatives ou positives. Là, on parlera des boucles de rétroaction positives qui, quelque part, portent mal leur nom ou peuvent induire les gens en erreur parce que positif, on a l'impression que c'est bien, un truc positif, c'est bien. Mais la boucle de rétroaction positive, ça veut simplement dire que l'effet renforce la cause. Hein. On le voit largement pour le réchauffement climatique. Exemple, si les forêts brûlent, il y a moins de forêts, il y a moins de puits de carbone, donc le climat se réchauffe encore plus, ou l'effet albédo, enfin, etc. Donc ces boucles de rétroaction, elles n'existent pas que pour le réchauffement climatique. Ils ont essayé de les prendre en compte. Et donc, tous ces jeunes gens font tourner leurs ordinateurs et vont tester plusieurs hypothèses. La première hypothèse sur laquelle ils travaillent, c'est que finalement, le monde va continuer as usual, the business as usual, sans vraiment avoir une politique volontariste. Et ils réfléchissent avec les ressources naturelles telles qu'on peut les estimer en 1970. Donc ça, c'est leur premier scénario, hein, la première hypothèse. Scénario avec les ressources naturelles connues en 1970. Alors, en réalité, ces ressources connues, ils leur ont appliqué quand même un coefficient multiplicateur en se disant « on connaît, mais on va en découvrir d'autres bon, », tel qu'on peut l'évaluer en 1970. Et là, dans ce premier scénario, car effectivement, tout à l'heure, hein, vous parliez de l'effondrement, et le rapport Meadows tourne bien autour de cette notion d'effondrement, puisque dans tous leurs scénarios, un effondrement se produit. Et là, l'effondrement se produit, vous le voyez. Pourquoi ? Parce qu'il y a, il y a une ligne là, rouge qu'on suit et qui s'enfonce complètement, qui descend. Eh bien, c'est celle des ressources naturelles. Alors, la population, elle va continuer à augmenter parce qu'évidemment, il y a un effet d'inertie. Hein. On voit la pollution qui augmente aussi, etc. Mais cet effondrement, chaque fois, il va être causé par quelque chose qui est très important. C'est la nourriture disponible par habitant. Et à partir du moment où cette courbe plonge, eh bien forcément, elle va entraîner, avec un décalage, hein, mais elle va entraîner la diminution de la population. Bon, alors, ils se sont dit, on va peut-être travailler quand même sur des hypothèses plus optimistes. Et dans une deuxième hypothèse, les ressources sont illimitées, entre guillemets, en tous les cas, quasi illimitées, ce qui signifie, par exemple, qu'on arriverait à les recycler sans fin, hein, et puis que l'énergie ne serait plus un problème. On aurait trouvé une baguette magique, vous l'appelez comme vous voulez, et on aurait de l'énergie. Eh bien, dans ce cadre-là, on a toujours un effondrement, mais cette fois-ci, la courbe qui monte complètement à la verticale, vous le voyez, ce n'est pas l'effondrement des ressources naturelles, elle baisse quand même un petit peu les ressources naturelles. C'est la courbe du haut. Je ne sais pas si c'est bien lisible, c'est peut-être pas si lisible que ça pour vous aussi. Ça va ? C'est celle du haut, là, les ressources naturelles. Et puis celle qui augmente en pointillé noir à la verticale, quasiment, c'est la pollution. Donc là, dans cette deuxième hypothèse, merci. Dans cette deuxième hypothèse, l'effondrement, puisqu'après on va retrouver à nouveau la chute de la population, etc., est liée à l'augmentation de la pollution. Il teste une troisième hypothèse. Grâce à la fois de la technologie, grâce à du nucléaire, etc., on arrive aussi à contrôler la pollution. Et cette fois-ci, vous le voyez, c'est la courbe complètement en bas. Donc la pollution reste à un niveau relativement faible. Les ressources naturelles diminuent, mais elles diminuent moins rapidement que dans le premier scénario. Et malgré tout, il y a un effondrement, alors qui est différé par rapport aux autres scénarios. Il arrive un petit peu plus tard dans le 21e siècle, mais malgré tout, cet effondrement se produit. Donc, la conclusion du rapport Meadows, et sa seule conclusion forte, évidente, c'est que la croissance matérielle perpétuelle conduit tôt ou tard à un effondrement du monde qui nous entoure. Et que même en étant très optimiste sur la technologie, ce qui correspond à pas mal de débats, parfois que vous pouvez avoir peut-être avec des gens autour de vous, etc., qui pensent que la technologie va trouver toutes les solutions, hein, eh bien l'effondrement se produit avant 2100. Bon, alors, vous vous rendez compte quand même de ce rapport qui sort, là, des petits jeunes qui ne sont pas encore très connus à l'université. Eh bien, ce rapport, en 1972, il a un très gros impact. Autant, moi, je ne sais pas, dans les années 2000, je n'en avais pas forcément entendu parler, mais au moment où il est publié, il a un impact. Alors, il a un impact, mais il a aussi, il va susciter aussi beaucoup de critiques. Alors, le président des États-Unis, Jimmy Carter, commande un autre rapport, hein, sur les effets des activités humaines, et ce sera le rapport Charney, publié en 1979. Et le rapport Charney va s'intéresser plus particulièrement aux émissions de CO2, ce qui n'était pas si présent que ça dans le rapport Meadows, hein, qui n'est pas centré sur la question du réchauffement climatique. Donc on voit que le président des États-Unis se dit « bon, ben, il faut quand même peut-être continuer ces investigations ». À titre d'anecdote, hein, il fait placer aussi un chauffe-eau solaire au-dessus de la Maison Blanche en se disant « bon, il faut peut-être faire des efforts ». Et puis il a une phrase en disant « ce chauffe-eau solaire sera dans 20 ou 30 ans peut-être le signe d'un grand changement, d'une nouvelle phase qui s'est mise en place, etc. » Ou alors il sera devenu un objet complètement obsolète. Alors ni l'un ni l'autre, parce qu'en fait Ronald Reagan l'a fait démonter quand il est arrivé à la Maison Blanche, mais il n'y a pas eu de très grand suivi. En France, comment le rapport Meadows a été reçu ? Il a par exemple des critiques très négatives de la part du Premier ministre. Il serait malvenu, dit-il, de vouloir substituer des priorités nouvelles comme la préservation des ressources naturelles aux priorités anciennes, le plein emploi, l'accroissement des revenus, et de plaider pour une diminution de la croissance en Europe. Donc vous voyez, c'est très clair. Hein, cette idée de diminuer la croissance apparaît complètement une idée farfelue, de dire mais qu'est-ce qu'on va aller chercher alors que la croissance, c'est du solide, ça a permis d'accroître les revenus, le niveau de vie, on ne va pas remplacer notre logiciel. Hein. Dans l'humanité, Georges Marchais estime que le rapport et son idée d'une nouvelle civilisation sont une atteinte intolérable à l'amélioration du sort des travailleurs. Alors le Club de Rome, maintenant, il est un peu embarrassé parce qu'il a lancé ce truc et puis il se retrouve avec un rapport qui dit qu'il faut diminuer la croissance. Alors il va nuancer, il ne va pas reprendre complètement, comment dirais-je, hein, les conclusions de ce rapport du MIT. Et enfin, d'autres critiques qui sont faites à ce rapport viennent à la fois des pays riches qui veulent continuer à consommer, mais aussi des pays pauvres qui disent « mais nous, on a besoin de croissance parce que nous, on a besoin de se développer ». Enfin, ce rapport, il suscite aussi des critiques des économistes. Alors, c'est peut-être pas la peine de tous les dire, mais pour montrer à quel point, quand même, ce rapport heurte complètement les grilles d'interprétation qui sont dominantes à cette époque, parce que bon, l'économiste libéral Hayek, hein, prix Nobel, estime qu'on fait une énorme publicité à ce rapport, alors que dans ses calculs du rapport Meadows, pour lui, il y a plein d'erreurs, et que vraiment, on fait beaucoup trop de publicité à un truc qui n'est pas sérieux. Alors, était-il sérieux, Denis Meadows et ses compères? Eh bien, il y a un autre chercheur, qui s'appelle Adrian Turner, qui est un Australien. Il se dit, mais finalement, puisqu'ils ont fait des projections à partir de 1970, maintenant, on a du recul. Leurs courbes, on va les comparer aux courbes des évolutions réelles. Et c'est ce que vous avez sur ce petit schéma. Vous avez en pointillé ce qu'avait prévu le rapport Meadows et en très plein les données réelles. Que s'est-il réellement passé donc entre 1970 et 2010, qui est le moment où Adrian Turner a fait toutes ses recherches? Et vous voyez que grosso modo, eh bien, les courbes sont très très proches. Et c'est même étonnant qu'ayant travaillé malgré tout avec des moyens en 1970, vous voyez, qui n'étaient pas l'énorme pouvoir de calcul que nous avons aujourd'hui, avec, qu'ils aient finalement trouvé des résultats qui se soient avérés aussi fiables. C'est même étonnant. Hein. Alors on peut se rendre compte que la production industrielle est un peu en dessous de ce qui avait été prévu. Et on peut y trouver sans doute aussi l'impact de crises qui ont eu lieu depuis le rapport, c'est-à-dire le premier choc pétrolier 1973, deuxième choc pétrolier 1979, la crise financière de 2008. Et puis il est vrai aussi que au plus on va se rapprocher des limites et on peut avoir malgré tout un petit effet de freinage. Hein. Mais malgré tout, on le voit. Ce rapport Meadows s'est retrouvé finalement très solide. En 1972, c'est aussi le moment de la conférence de Stockholm. Et ce début des années 70, et ces années 70, hein, les historiens l'appellent la décennie de l'écologie. Et ça aussi, ça nous interpelle, parce qu'on peut avoir l'impression que tout ça, c'est récent, qu'on a une prise de conscience très récente, mais l'année 70 a été appelée comme ça. C'est la création du Earth Day, du jour de la Terre. C'est la création de nombreuses organisations non gouvernementale, Greenpeace, c'est une décennie de mobilisation, c'est une décennie où les institutions internationales, l'ONU, etc., créent énormément d'organismes pour travailler sur ces questions. Et la conférence de Stockholm, donc la même année que le rapport Meadows, hein, c'est la première grande conférence internationale sur les questions de l'environnement. Alors voilà, je vous laisse lire sur la diapo. Vous voyez qu'il y a à la fois un programme d'évaluation, hein, et puis des mesures internationales qui visent à étayer ces activités, etc. 3 ans plus tard, toujours à une session de l'Assemblée générale des Nations unies, on a un autre rapport qui affirme que la primauté de l'économique ne peut plus être défendue. Et on a donc des propositions pour combattre les excès de la société de consommation. Et si vous lisez ces propositions, ben ça doit là aussi nous interpeller, parce que ce sont des choses qui sont en train d'être proposées en ce moment. Plafonner la consommation de viande et de pétrole, une utilisation plus économique des bâtiments, accroissement de la durée de vie des biens de consommation, hein, suppression des voitures individuelles en 1975, remplacées par des transports collectifs. Et pour les auteurs de ce rapport, il ne s'agit pas de mesures d'austérité, mais de simples moyens d'améliorer la qualité de vie et la durabilité. Cette durabilité est le concept qui va naître, si vous voulez, et qui va être utilisé de différentes façons, parce que soit ce concept de durabilité, il va être utilisé pour penser qu'il y a une croissance durable ou un développement durable, soit pour remettre en cause la croissance. Et en 1990, Herman Daly propose 3 critères de durabilité forte. Comment on sait qu'on est dans quelque chose de durable? Les taux d'épuisement des ressources naturelles renouvelables doivent être égaux à leur taux de régénération. On ne va pas prendre plus de bois que ce que le bois va, par exemple, se régénérer. Le taux d'émission des déchets doit être égaux aux capacités d'assimilation et de recyclage. Et l'exploitation des ressources non renouvelables doit se faire à un taux égal à celui de la substitution par des ressources renouvelables. Et si j'ai fait toute cette historique-là, c'est pour montrer qu'on se rapproche vraiment de la notion là des limites planétaires et que tout ça était déjà en fait en place. Alors, l'avantage des limites planétaires, c'est que ça va permettre de calculer un peu plus finement le dépassement ou pas de ces limites planétaires. Je vous ai mis une référence bibliographique sur la diapo. Et puis, donc, on va parler de ces limites planétaires. Et peut-être s'intéresser déjà au mot limite. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, limite ? D'autant plus s'interroger que, comme vous le savez peut-être, on a franchi la sixième limite, donc on a six limites sur neuf qui ont été dépassées. Alors ça veut dire quoi ? C'est comme quand je franchis, la ligne rouge là ou la ligne blanche sur la route. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors en 2009, une trentaine de scientifiques qui ont publié un article dans la revue Nature, pour présenter ces limites, qui sont des seuils biophysiques à ne pas dépasser pour que les écosystèmes puissent fonctionner. Et dans ces neuf, alors j'espère que vous arrivez à les voir, hein, vous avez le... Donc on va voir ensemble, parce que là, ce schéma, il est fait au moment où... Enfin, où il représente le moment où ces scientifiques travaillent. Et le moment où ces scientifiques travaillent, d'abord, ils n'ont pas pu étudier exactement les neuf limites. Et au moment où ils travaillent, ils disent qu'il y en a trois qui sont dépassées. Mais depuis, on en a d'autres qui ont été dépassées. Alors vous le voyez, si on part du réchauffement climatique, hein, réchauffement climatique, eh bien depuis, c'est une limite qui a été dépassée. Ce réchauffement climatique lui-même crée l'acidification, enfin crée. Le CO2 dans l'atmosphère capté par les océans donne de l'acidification des océans. Alors, la couche d'ozone, c'est la seule limite pour laquelle, au contraire, il y a plutôt un mieux. C'est-à-dire, voilà, on s'est éloigné du danger, en quelque sorte, et là, c'est la seule limite pour laquelle on a une amélioration. La perturbation du cycle de l'eau douce, le fait de prélever trop d'eau douce, est la dernière limite à avoir été dépassée en 2022 parce que les scientifiques ont inclus l'eau verte, c'est-à-dire l'eau disponible dans les sols dont la végétation a besoin et pas seulement les eaux qui circulent. Et en ayant donc inclus cette eau verte, cette humidité dans les sols dont la végétation a besoin, ils ont estimé que ce cycle de l'eau était désormais largement perturbé et de toute façon l'eau insuffisante par rapport aux besoins. La pollution atmosphérique en aérosol, c'est une limite qui n'a pas encore été dépassée. À ce moment-là, il n'y a pas de données. Hein. La pollution des substances nouvelles, elle a été dépassée. Hein. La biodiversité, l'effondrement de la biodiversité aussi. Puis on a le cycle de l'azote et du phosphore. Le changement d'affectation des sols, c'est ce qu'on appelle parfois l'artificialisation, mais c'est aussi surtout la déforestation. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que pour chacune de ces limites, il y a un indicateur et un indicateur chiffré. Si on reprend le cas du réchauffement climatique, eh bien l'indicateur, c'est la quantité de parties par million de CO2. Et cette limite, elle a été fixée entre 350 et 450. Et déjà, c'est un exemple intéressant parce que ça vous montre quand même que ce n'est pas un chiffre, je dirais, absolument précis. C'est une zone. Hein. C'est une zone. Et actuellement, la teneur moyenne est de 420. Et donc, la question, c'est de savoir si vous voulez, il faudrait plutôt, peut-être qu'il y en a qui préfèrent aujourd'hui parler de frontières plutôt que de limites pour montrer qu'il y a une sorte d'épaisseur, c'est pas une ligne, mais c'est une zone dans laquelle on entre, qui est une zone dangereuse, qui n'est pas forcément celle du point de bascule. Le point de bascule, en gros, arrive après le dépassement de la limite. Hein. Alors, ça permet d'avoir ces calculs, ça permet normalement d'alerter tous les décideurs de la dangerosité du dépassement de ces limites. Et donc, c'est un outil à la fois scientifique, c'est un outil aussi de prise de décision. Amsterdam s'est inspiré de ceci et du modèle qu'on va voir juste après pour essayer justement de penser une nouvelle politique de gestion de la ville d'Amsterdam et de développement, entre guillemets, de la ville d'Amsterdam. Parce que vous le savez, chaque fois que l'on parle de limiter la croissance ou de la question des limites planétaires, arrive très rapidement aussi la question de la justice, de l'équité, que ce soit à la fois entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres, mais aussi à l'intérieur des pays. Et de ce fait, il y a un autre modèle qui a été créé à partir de celui des limites planétaires, qui est le modèle du donut. Et en fait, ce modèle du donut vise à baliser un espace sûr et juste pour l'humanité qui apparaît en vert clair, qui permet à l'humanité de continuer à vivre dans des conditions correctes. Nous avons en cercle extérieur ces fameuses limites planétaires, mais nous avons en intérieur, à l'intérieur du cercle, le plancher social qui correspond aussi aux besoins, aux besoins, alors voilà, qui demande là aussi à être chiffré, estimé en eau, en revenus, en éducation, en énergie, en santé de la population. Et donc il s'agirait de penser chaque fois les politiques environnementales en fonction de ce plancher social et de ce plafond environnemental, pour se situer entre les deux, c'est-à-dire respecter le plancher social, mais ne pas dépasser le plafond environnemental. Voilà, donc je ne voulais pas être trop longue. Après, je pense qu'il peut y avoir pas mal de questions. Voilà, moi, parmi les questions que je me pose, mais ce n'est peut-être pas les mêmes, vous en avez d'autres, hein, c'est pourquoi les scientifiques n'ont-ils pas été plus entendus? Voilà, ça fait 50 ans. Maintenant, on peut dire qu'il y a des rapports qui sont écrits, des dizaines de milliers de pages, des tribunes, des... Bon, voilà, question. Quels sont les points de blocage? Autre question. Pourquoi, autre question, pourquoi la question de la croissance ou de la décroissance reste-t-elle, la question de la décroissance, un tabou quasi absolu? Quasi absolu. Alors que, ça ne sort pas, je dirais, de la tête du Luberlu. Ça fait 50 ans que les scientifiques, au plus, ils travaillent sur ce sujet et au plus, expliquent que la croissance ne peut pas être complètement découplée de la consommation de ressources et d'énergie et que donc il faut aller vers moins de croissance, beaucoup moins de croissance, etc. Voilà, ce sont des questions, mais évidemment, vous avez sans doute d'autres questions. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir.
Merci à vous pour cette première partie de l'intervention extrêmement passionnante et brillante. Qui veut se lancer pour la première question, qui est sur la question la plus compliquée?
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi personne ne parle vraiment du problème de la surpopulation et pourquoi les politiques ne s'emparent pas du tout de ce problème.
Oui, alors c'est une question qui était beaucoup plus présente dans les années 1970-1980, et elle est très présente dans le rapport Meadows, par exemple. Voyez. Et puis, effectivement, ensuite, c'est une question dont on parle beaucoup moins. Alors, je pense pour plusieurs raisons. Je vais essayer de me remettre sur la diapo, voilà, de la transition démographique. En fait, la très forte croissance de la population, elle vient à ce qu'on appelle une transition démographique que l'Europe a connue. C'est-à-dire qu'avant, dans l'Ancien Régime, il y a un taux de natalité fort, 40 pour 1000, et un taux de mortalité qui est presque aussi fort. Donc ça vous explique que pendant des millénaires, bon, la population elle a très très peu augmenté. Puis, progrès de l'agriculture, de la médecine, de l'hygiène, etc., le taux de mortalité diminue. Mais pendant un temps, le taux de natalité, les habitudes des gens, les organisations sociales font qu'on ne bouge pas tout de suite et donc la natalité reste forte. Et c'est là qu'on a ce fort accroissement Dans une deuxième phase, la natalité commence à baisser, puis on arrive dans le nouveau régime démographique, qui est celui des pays en gros développés, c'est-à-dire on a un accroissement naturel qui est quasiment aussi faible qu'avant, dans l'ancien régime, mais avec des taux de natalité et de mortalité qui sont à autour de 10 pour 1000. Et donc cette transition démographique a été vue comme un modèle, et on s'est dit que tous les pays allaient y passer, et que quelque part ça allait être une sorte de... d'évolution naturelle qui accompagne le développement des pays. Et que ce n'était pas la peine d'en faire une sorte d'axe politique, parce que de toute façon, ça allait se faire tout seul. Hein. Ce qui n'est pas complètement faux, parce que si on voit la diapo suivante, ça nous montre que finalement, les pays où la fécondité reste élevée, c'est ceux qui sont le plus foncé, en marron foncé. Les bleus ont achevé leur transition démographique. Voilà, donc ça, je crois que c'est une première réponse à votre question. La deuxième réponse, je pense aussi qu'elle tient au fait que la natalité, on le sait bien, touche à plusieurs éléments qui sont potentiellement explosifs. Ça touche à l'identité d'un certain nombre de pays, de politiques qu'ils mènent ou qu'ils ne mènent pas. Ça touche à des éléments aussi religieux, parce que les systèmes religieux ont généralement tendance à voir la natalité élevée comme un facteur tout à fait positif. Voilà. Je pense que ce sont autant de raisons qui font qu'on a beaucoup mis cette question entre parenthèses et qu'enfin, les pays riches étaient mal placés pour porter ce message parce qu'ils ont une telle consommation par habitant tellement élevée par rapport à celle de ces pays que ça permettait aussi facilement de dire « Mais si tout le monde consommait pas plus que le Sénégalais, eh ben on n'aurait pas ces problèmes-là, vous voyez ?» Donc on a trois points de blocage, je crois, pour aborder cette question.
Il y a eu Emmanuel Pont qui est venu à Malraux il y a 2-3 jours, et le sujet c'était « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» Et il explique justement tous les points. Et en fait, la conclusion, c'est que ce n'est pas vraiment un problème, en fait.
Ben, c'est toujours... Mais quand on dit que ce n'est pas un problème...
C'est que, comme vous dites, en fait, ça va se réguler. Et que... Après, ça dépend quel monde on veut demain, quoi.
Oui, alors, bien entendu, il y a des pays comme le Japon. Mais je pense quand même que quand on fait cette réponse, il faut... Enfin, quand on parle de ça, il faut prendre en compte aussi le fait que... on ne va pas échapper... À cet effondrement. On ne va pas y échapper. Mmh. Et qu'un monde avec plus 500 millions par rapport à aujourd'hui, ou plus 800 millions, ça fait encore plus de gens qui vont subir des famines, qui vont subir des cataclysmes, des pressions encore plus fortes. Voilà, donc, il faut pas le... Parce que souvent, quand on fait cette réponse, on fait une réponse qui est un peu arithmétique, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème, parce que si on répartit de façon juste... Et c'est vrai. Si on répartit de façon juste la nourriture disponible, on pourrait nourrir tout le monde. Oui, sauf que ça ne va pas se passer comme ça. Donc ça dépend aussi si on fait une réponse théorique ou si on fait une réponse, je dirais, plus pragmatique, humaine et qui tient compte de ce qui va se passer.
J'arrive.
D'abord, merci pour votre capacité en si peu de minutes à refaire ce panorama. À titre personnel, moi, c'est la candidature de René Dumont en 1974, le premier candidat écologiste, mais on est vraiment dans les mêmes créneaux historiques qui m'a ouvert les yeux. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à lui très régulièrement, y compris avec son verre d'eau, et vu la situation dans laquelle on est. Alors, comment ça se fait, effectivement, qu'il, 50 ans après, il y a toujours cette myopie du monde politique, du monde économique, et puis d'un grand nombre de nos citoyens. Pourquoi on fait cette politique de l'autruche alors que les faits sont là? Évidemment, les causes sont multiples. Moi, il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est les mots. Je crois que les mots façonnent notre imaginaire et notre comportement. Et dans les mots qui ont été utilisés, type croissance, développement, ils ont été très vite entachés de la notion de l'économie, de ce qui peut se mesurer. Et donc, c'est très difficile d'imaginer ou de plaider pour un politique ou pour un économiste ou pour un citoyen cette idée de décroissance. Alors, on a inventé le mot sobriété qui essaye un petit peu de prendre sa place. Alors, je veux savoir, en tant qu'historienne, à quel moment l'économie a capté, a mis la main sur des concepts qui sont somme toute neutre ou positif. Le développement, la croissance, une plante, elle croît. Le développement personnel, c'est quelque chose d'intéressant. À quel moment il y a eu ce rapt?
Alors, je dirais que c'est au 19e, mais j'aurais peut-être du mal à le dater plus précisément. Mais je vous remercie pour cette remarque et cette question et pour le rappel de Dumont, effectivement, avec son verre d'eau en 1974. Hein. C'était la première candidature écologiste au présidentiel.
Alors, pour les plus jeunes, est-ce que vous pouvez juste rappeler cet événement?
Alors, pour les plus jeunes, en fait, il me semble que c'est un ingénieur agronome qui a travaillé notamment beaucoup sur les systèmes agricoles, hydrographiques en Afrique. Et donc, c'est un monsieur qui s'est présenté aux élections présidentielles de 1974. Et au moment de sa présentation vidéo, il a un verre d'eau. Il dit « Bientôt, ce qu'il y a dans ce verre sera une ressource très précieuse ». Quelque chose comme ça, c'est sans doute pas mot à mot. Hein. Et quelque part, je pense qu'on s'est un peu moqué de lui en 1974. Bah, l'eau, comme si ça allait être précieux, comme si ça allait manquer, n'importe quoi. Voilà. Et effectivement, on peut y penser aujourd'hui où la question de l'eau devient tellement prégnante. Mais pour revenir à ce que vous disiez, la question de la croissance quantitative et donc préemptée, c'est presque un peu depuis le départ. Et par exemple, Marx fait une critique. On connaît tous la critique de marxiste de l'exploitation et de l'aliénation du prolétariat, etc. Mais il en fait une autre, par exemple, puisque pour lui, le capitalisme est un système fondamentalement en crise. Parce que pour augmenter, bon, ce serait tout un truc, mais bon, il va pressurer, par exemple, les coûts, la main-d'œuvre, etc. Mais pour Marx, il va pressurer aussi le milieu naturel. Et il prend l'exemple de la déforestation. Et donc, cette croissance, elle est bien pensée en termes quantitatifs dès le départ. Et elle est pensée en termes positifs. Elle est pensée en termes positifs et au XVIIIe siècle, qui est le siècle des Lumières, elle est quand même liée, ou on va la lier peu après, à la notion de progrès. Moi, une hypothèse que j'ai, mais je ne sais pas si elle est bonne, hein, mais je me dis que si on a autant de mal à renoncer à la croissance, c'est que dans les imaginaires, et dans notre histoire, ce n'est pas que dans les imaginaires, dans notre histoire, cette croissance, elle a amené du confort, elle a amené du progrès. Et en plus, depuis le XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le mythe du progrès, c'est qu'on croit que ce progrès, il est infini. Et qu'il est lié à la croissance et à l'enrichissement. Et donc tout ça fait une sorte de si vous voulez, de paradigme duquel on n'arrive pas à sortir. Parce que vraiment, le terme de décroissance, on voit à quel point il est tabou, puisqu'on a essayé de le contourner. On essaye de le contourner, alors on peut dire sobriété, on peut dire développement durable, on peut dire croissance verte. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu un oxymore. Hein, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment lié à notre culture occidentale. Le progrès de la science, le progrès de la technologie, l'accroissement des richesses entraîne un mieux-être. Et on a l'impression, voilà, c'est ça, on a l'impression que ça serait régresser, et c'est très difficile. Il y a un économiste qui a montré que dans la crise économique des années 30, les niveaux de consommation en France sont restés à peu près les mêmes. Ils n'ont pas baissé. C'est très difficile de faire baisser. Il faut une politique volontariste. C'est évident. Ça peut pas se faire tout seul. Hein.
J'enfonce le clou. Vous avez parlé, vous venez juste de parler de croissance verte, vous avez dit c'est un peu un oxymore. Vous avez dit un peu. C'est un oxymore.
Moi j'aimerais connaître la place des lobbies dans ce système.
Oui, oui, oui.
Quel rôle ils jouent, quelle pression, quelle...
Alors les lobbies jouent un rôle très 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 important. On voit bien que chaque fois qu'il y a des rapports qui sont amenés et des décisions, ben, c'est tout dernièrement d'ailleurs. C'est le Haut Conseil de l'alimentation qui a fait 20 préconisations, et sur ces 20 préconisations, la FNSEA, non, c'est même plus de 20, c'est paru cette semaine, hein, a demandé que la moitié ne soit pas reprise de ces préconisations par le gouvernement. Hein. Par exemple, une de ces préconisations, c'était il faut manger moins de viande. Et la FNSEA dit non, il ne faut pas le dire comme ça, il faut dire il faut manger de la viande modérément. Mais voilà, ce qui. Vous voyez, bon, et puis il y a d'autres choses qui sont même plus. Donc le rôle des lobbies, il est très important. auprès des gouvernements, au niveau européen, au niveau... Et le problème de ces lobbies, souvent, c'est qu'ils ont énormément de moyens financiers. Donc pendant très longtemps, vous savez que leur technique, c'est d'abord de financer d'autres études. Et d'autres études qui, dans un premier temps, n'arrivent pas quand même complètement à démontrer le contraire de ce que les scientifiques, dans leur immense majorité, ont montré, mais simplement des études qui peuvent permettre de conclure « Ah, mais c'est beaucoup plus compliqué, on n'a pas tout vu ». Donc, une sorte de jeter un doute, mettre une sorte de brouillard, qui permet aussi à tous ceux qui n'ont pas envie de changer de dire « Mais tout ça, de toute façon, reste incertain, non prouvé, etc. » Donc ça, on l'a vu, c'est le fonctionnement de ces lobbies depuis très longtemps. Il y a eu un très beau livre qui est américain sur le lobby du tabac, qui s'appelle « Le Gold Génocide » ou quelque chose comme ça. Et on voit comment, pendant des années, ils ont financé des études. On l'a vu pour le réchauffement climatique. Et puis après, vous avez aussi, il y a le lobby des agriculteurs en France. Il y a le lobby des agriculteurs en France. Par exemple, il y a des industriels, de ceux qui produisent les matières plastiques, etc., etc. Et face à ça, il y a malgré tout une voix qui est la voix aussi de la justice, puisque là, le Conseil d'État vient de refaire un coup de semonce au niveau du gouvernement, pour l'instant sans astreinte financière, mais en disant « Vous ne respectez toujours pas la trajectoire, il va falloir s'y mettre vraiment ». Et j'ai vu que dans le sud-ouest, il y a un tribunal administratif qui a condamné un abattoir après une plainte déposée par L124. Voilà, ils ont gagné. L124 a gagné. 214, pardon. Oui, c'est autre chose, L124. Merci. Merci. Et donc, à 4 500 euros de... Voilà. Et donc, il y a cette voie éventuellement de la justice, d'organisations qui eux-mêmes essayent d'avoir des avocats qui se spécialisent. Il commence à y avoir du droit de l'environnement. Voilà, mais c'est évident que ce sont Alors, il y a un mouvement, par exemple, au niveau européen, qui s'appelle WeMove, et qui essaye de faire du contre-lobbying, en quelque sorte, au niveau européen.
Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Mais je voudrais savoir si, vraiment, il faut, à ce moment-là, brider l'aspiration des pays du Sud à avoir un niveau de vie qui se rapproche du nôtre, étant donné que, en plus, leur démographie est galopante. Ces gens-là, ils ont besoin aussi d'un développement par rapport à nous.
Je n'ai pas bien entendu le début de votre question. Votre question, c'est est-ce que les pays du Sud...
Est-ce qu'il faut brider l'aspiration de ces pays à avoir un niveau de vie supérieur à celui qu'ils ont actuellement?
Oui. Alors d'abord, moi, je crois que chaque fois qu'on se pose des questions, et c'est une bonne question, c'est une question tout à fait légitime, il faut quand même comprendre que l'effondrement va provoquer des catastrophes, et d'abord dans les pays, justement, du Sud. Et que donc, brider leur développement, si ça doit faire que la catastrophe arrive moins fortement, c'est peut-être dans l'intérêt aussi de ces pays. Mais il est évident, malgré tout, que, globalement, la décroissance veut quand même dire faire décroître fortement les consommations très fortes des plus riches, à la fois dans les pays développés, et globalement, des pays riches par rapport aux pays pauvres. Ce n'est pas de dire que tout le monde va décroître de la même façon. Hein ? Et d'autre part, ce qu'il faudrait aussi éviter, si vous voulez, c'est que certains pays passent par la case du développement qu'on a connu, parce que c'est un développement qui a amené à une impasse. Si un pays, par exemple, a gardé plus ou moins encore plus l'habitude de la marche à pied, plus l'habitude du vélo, c'est peut-être pas la peine que de dire ils vont se développer comme nous, ils vont avoir la voiture. Ben non, autant cette case-là, la réduire le plus possible pour les amener directement vers ce que nous, on va mettre des décennies à retrouver. Voyez, c'est une question légitime. Hein. Mais je crois qu'en même temps, il faut vraiment prendre conscience que cet effondrement, ce mur qu'on va prendre, va impacter très 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 fortement les pays les plus pauvres qui auront peu de choses, puisque maintenant on parle de l'adaptation. Hein. Et le ministre de l'Environnement dit, voilà, il faut préparer la France, ça va être plus 4 degrés possiblement. Donc, mais dans ces politiques d'adaptation, tout le monde ne part pas avec les mêmes moyens. Et voilà. C'est une des conséquences du réchauffement climatique, les migrations climatiques seront très très importantes. Ouais.
En ce qui concerne les pays, disons, d'Afrique noire, il est bien évident que si on leur impose de nous livrer du cacao, du café, etc., ils ne peuvent pas développer leur culture vivrière. Et le grand drame, en fait, c'est que ils n'ont rien à manger pour eux, très très souvent, ce qui n'est pas le cas ou plus le cas au Maghreb, puisque au Maroc, ils ont bien développé les cultures vivrières, donc peut-être qu'une grande partie du problème est là, leur permettre de s'autosuffire. Bon, ça ne réglera pas tout le problème de la natalité, évidemment, ça c'est assez complexe, mais au moins que les cultures vivrières puissent se développer au détriment du café, etc.
Mais tout à fait, c'est toute une organisation économique mondiale qui a spécialisé en plus à outrance la production de certains pays. Et cela a été rendu possible par ce qu'on appelait la révolution des transports, et ça c'est en gros dans les années 70 aussi, avec ces immenses porte-conteneurs, ce qui fait qu'en fait, transporter un kilo de quelque chose, même à l'heure d'aujourd'hui où les coûts ont augmenté, c'était rien. Donc on peut se permettre d'aller produire quelque chose très très loin et puis de l'acheminer et de spécialiser ces pays contre leurs intérêts avec des cultures spéculatives qui, par ailleurs, c'est toujours le problème aussi quand on parle d'enrichissement, en disant mais il faut de la croissance, ça va enrichir. Oui, mais ça va enrichir qui? Parce que si ça enrichit quelques groupes, voilà, ça ne va pas enrichir forcément. On le voit aussi dans la déforestation de l'Amazonie, ça profite à qui? Voilà. Donc c'est aussi toute une localisation des activités économiques agricoles. De toute façon, l'idée de relocaliser et de faire que chaque aire géographique ait en gros des capacités de s'autosuffire est quand même une idée qui progresse, mais qui ne progresse pas assez, effectivement. Alors oui, vous avez raison. Alors ça, c'est ce que répète toujours Jean Covici en disant, mais de toute façon, si vous ne voulez pas changer, vous changerez quand même, parce que même le pétrole, il en manquera, le réchauffement climatique, il va avoir lieu. Donc voilà. Mais l'image qu'il prend, et moi j'aime bien, c'est de dire, eh ben voilà, le mur, il va être là, et ça va être obligé à changer, ce que vous disiez, vous avez tout à fait raison. Mais soit on prend le mur et on n'a pas freiné avant, et donc on rentre dedans et on est à 80 km/h, ou alors on a bien freiné avant, et on prend le mur, on n'est plus qu'à 20 km/h, et ça, on va se faire moins mal. Et ce qui est terriblement dommage, c'est qu'à ce point, les courbes vont se croiser, parce que dans le pire scénario, de toute façon, si on n'a pas freiné suffisamment avant, on a ces questions d'effondrement qui vont demander énormément d'argent pour s'adapter. Mais comme cet argent, on continue à l'investir dans des infrastructures qui entretiennent la croissance telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant, il n'est pas bien sûr non plus que dans les pays riches, il y aura assez de capital pour assumer cette adaptation. Donc vous voyez, c'est d'aller jusqu'au dernier bout pour dire, eh bien, on va faire quand même fonctionner nos stations de ski, on va quand même continuer à construire des autoroutes, on va quand même faire ceci, on va quand même faire cela, avec parfois des financements publics sur des infrastructures, alors que cet argent, il va y en avoir un très grand besoin pour la transition et l'adaptation. Les deux.
On va avoir du mal à freiner, hein, parce que.
Mais là, on se retrouve après dans des explications sur le problème aussi du court-termisme des gouvernements. Les élections, c'est tous les 5 ans. Et la planification, effectivement, il y a des grands secteurs où il faut prévoir sur 15 ans, sur 20 ans. Ce n'est pas le temps des élections. Ça pose une première question. L'autre question, c'est ce qu'on appelle la responsabilité diluée. Moi, quand je parle autour de moi, généralement, j'ai deux objections qui me reviennent tout le temps, de mes amis, hein. Ils me disent, écoute, ça ne sert à rien, la France, on est 1% des gaz à effet de serre, la Chine, qui pollue énormément, a qu'à commencer, ou bien, de toute façon, ça ne changera rien, c'est trop tard. Et ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité diluée. Et moi, je suis très frappée par le fait que les grands-parents que je connais sont des grands-parents formidables. Ils font un maximum d'efforts pour apprendre plein de choses à leurs petits-enfants, pour leur transmettre éventuellement un capital. Et par contre, ils sont, pour ceux que je connais dans la plupart des cas, pas motivés à faire des efforts pour transmettre une planète plus durable. Et là, c'est la question de la responsabilité diluée. Parce que moi, si j'agis, de toute façon, oui, ben, je vais changer à la marge. Donc ça, ce sont des objections. Ou bien, c'est toujours, on prend l'exemple de ceux qui ne peuvent pas changer pour exonérer l'ensemble. C'est très, très vrai sur les transports. On va vous dire, ah, mais il y a des gens qui sont obligés de prendre leur voiture. Oui, il y a des gens qui sont obligés de prendre leur voiture. Mais qui sont vraiment obligés, peut-être il y en a combien, 20%, 25%? Oui, mais tous les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité diluée. Et puis, il y a le triangle de l'inaction climatique. Les élus disent, mais les électeurs, ils ne nous envoient pas ce message, puisqu'ils ne votent pas massivement sur des plateformes, des mots d'ordre qui sont écologistes. Voilà. Les citoyens disent, mais c'est au gouvernement à agir. Et les entreprises disent pareil, les politiques n'ont qu'à nous imposer des normes.
Moi, je trouve que les citoyens, oui, sont capables d'agir. On est consommateurs, mais on consomme acteurs. Donc les gens aussi peuvent faire les efforts.
Ils peuvent.
Voilà, ils ne sont pas obligés d'attendre toujours les ordres d'en haut, etc. C'est quand même responsabilité.
J'ai une question.
Merci. Alors moi, en fait, c'était une réflexion parce que j'entends parler de ces problèmes d'évolution démographique depuis un moment. Et ça me rappelle mes cours d'écologie d'il y a 15 ans, où notre professeur nous expliquait le problème quand on avait une espèce sur un territoire, sur un écosystème, en fait, qui arrivait à un seuil de densité trop important. Elle finissait par causer son propre effondrement. Parce qu'au bout d'un moment, ils allaient épuiser les ressources, ils allaient développer des maladies et suffisamment fortement pour qu'il y ait un effondrement de près de 80%, je crois, de mémoire, de la population. Et donc, pendant ce cours, on avait effectivement fait le lien avec l'humanité et du coup le réchauffement climatique, enfin tout ce qu'on voyait. Et c'est quelque chose dont, c'est une règle d'écologie en fait, c'est une loi et dont j'entends quasiment pas parler. On sait que ça existe au niveau des espèces animales, végétales, ça fait partie de la norme et de la règle. Et j'ai l'impression qu'on occulte complètement cette vision-là quand il s'agit de parler des hommes et du coup dans un discours peut-être politique ou en tout cas ce qu'on a pu entendre à un certain moment ou encore aujourd'hui je pense, les gens ne nous prennent pas au sérieux. Pourtant on le sait, ça existe, alors peut-être pas encore chez l'homme, mais en tout cas chez beaucoup d'espèces on l'a déjà démontré, quoi.
Oui, mais alors c'est justement peut-être la différence entre l'homme et les autres espèces, c'est que l'homme effectivement par le recours à des techniques a pu s'abstraire un temps et qu'il est resté sur cette illusion qu'il pouvait s'abstraire, en gros, totalement, de ce rapport à la nature, qu'il n'était pas un élément de la nature, mais qu'il dominait la nature, qu'il était capable de l'exploiter à son profit. Et donc, comme c'est vrai pendant un certain temps, si vous voulez, parce que si on regarde les densités urbaines, je sais pas, 8000 habitants au kilomètre carré, et malgré tout, ces gens vivent. Si on était dans un écosystème, ils ne pourraient pas. Pourquoi ils vivent? Parce qu'ils vont faire venir des denrées de très loin, etc. Et donc, il a eu cette illusion, effectivement, qu'il pouvait échapper aux écosystèmes, qu'il était au-dessus. Et ceci étant, ça le rattrape. Et il y a des études sur des pays qui ont des fortes densités, par exemple, comme le Rwanda, et qui montrent à quel point les très fortes densités induisent énormément de tensions, y compris des tensions interethniques. Enfin, voilà, ça devient dans certains endroits très problématique.
Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'on a une idée du niveau de prise de conscience de tout ça dans les différentes populations sur la Terre?
Alors, c'est une bonne question. Alors, comment on pourrait savoir ça? On peut regarder les sondages. Et ça, je pense qu'on a des sondages dans plusieurs pays. Et ces sondages sont un peu fluctuants. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément quelque chose, vous voyez, de progressif qui continuerait à être linéaire. La prise de conscience va bon. Et puis, après, moi, je dirais, de facto, les gens votent pour qui? C'est un indicateur, parce qu'il peut y avoir d'autres raisons, parfois, au vote, etc. Mais c'est quand même un indicateur. Hein. Ça donne une première réponse. Mais vous voyez, par exemple, pour la France, j'ai lu le résultat d'un sondage qui montrait que le climato-scepticisme avait réaugmenté. Il était passé de 20 à 30% dans le sens où 30% de Français pensent que oui, il y a un réchauffement climatique, mais qu'il n'est pas d'origine anthropique. C'est pas nous, c'est pas nos activités. Ça fait 30% des Français. Voilà. Mais il faudrait regarder. C'est une bonne.
C'est pas rassurant.
C'est pas rassurant, non. C'est pas rassurant.
Je crois qu'il nous reste le temps de prendre une voire deux dernières questions.
Juste une petite correction, le critère du vote était pertinent quand il y avait beaucoup de gens qui votaient. Actuellement, il y a 50% de gens qui votent plus. On peut penser que, pas pour tous, mais parmi les raisons du vote, il y a une forme de désespérance politique.
Éventuellement.
Donc il faut faire un petit peu attention. Voilà. Oui. Je voulais juste introduire une petite... te dire par rapport aussi à l'exemple du mur de Jankovici. C'est un exemple qui, qui en veut d'autres, ça ne va pas être tranquille l'arrivée sur le mur. Hein. Ça ne va pas être tranquille, on le voit aujourd'hui, hein, les feux de forêt, l'eau, tout ça, mais y compris sur nos systèmes démocratiques. On n'en parle pas et ce n'est pas un critère qu'on retrouve dans les donuts ou dans les trucs. Oui. Mais on pourrait s'interroger. Nos sociétés sont actuellement traversées par des grosses tensions. Bon, il y a toujours eu des guerres, des choses comme ça. Mais le système même démocratique est actuellement est attaqué, est en difficulté. Et il y a probablement aussi des raisons liées à ce manque de projection possible, cette faillite de l'illusion du progrès qui fait qu'on se tourne, cette peur d'émigration qui travaille très profondément nos sociétés. Et à la limite, c'est une menace pour moi aussi importante, enfin à même niveau que la dégradation du vivant. Et puis je termine juste par une petite note d'espoir. Il y a quand même des gens qui ont essayé de démontrer, y compris sur un plan économique, qu'il pouvait y avoir c'est le titre d'un livre, « Prospérité sans croissance ». C'est-à-dire qu'il faut se convaincre qu'il y a des alternatives, à la fois dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans notre vision d'un système économique. On peut arriver à être heureux dans une autre type de société, mais ça demande un effort collectif, individuel assez gigantesque pour imaginer autre chose. Voilà, merci.
Oui, mais je souscris à ce que vous dites, hein, sur l'impact sur les systèmes démocratiques qui sont très fragilisés. Les nationalismes, les historiens, nous, quand on faisait des cours là-dessus, il y a 30 ans, on avait l'impression d'étudier une forme qui était un peu datée, voyez, qui était née au 19e siècle, qui avait été très forte à certains moments. Et là, on a un retour des nationalismes très important. Et il y a des philosophes, des économistes qui travaillent sur la façon éthique de partager des ressources rares. Mais voilà, mais c'est tout le problème, parce qu'il peut y avoir la façon éthique de partager des ressources qui se raréfient, et puis il peut y avoir la loi du plus fort, il peut y avoir les conflits interétatiques. Alors, ceci étant, pour finir aussi sur une note positive...
Et ça sera peut-être la conclusion...
La conclusion. Toujours quand on discute avec des gens qui disent... j'ai discuté avec une philosophe, et ce qu'elle m'a dit m'a beaucoup éclairée. Elle m'a dit à un certain moment, de toute façon... On peut s'interroger sur l'impact que moi j'ai personnellement et est-ce que ça vaut le coup d'agir ou pas, mais par rapport à ma conscience, je ne participe pas à un système prédateur, de même qu'il y a des gens qui fraudent le fisc. Alors c'est pas parce que je vais pas dire, ouais, il y a plein de gens qui fraudent le fisc, moi je fraude le fisc aussi, il y a plein de gens qui polluent un maximum, moi je le fais aussi. Non, ben, j'ai une conscience. Et je trouve que brusquement ça donne une sorte de sérénité. Ça donne une sorte de sérénité. Et j'essaye d'en parler, j'essaye de diffuser, il faut faire des petits pas, mais de toute façon, ma ligne de conduite, au fond, n'est pas forcément liée à la majorité de ce que les gens vont faire. Voilà, je peux terminer là-dessus.
Eh bien, merci beaucoup. Corinne Benafou, je rappelle, donc, est historienne, chercheure et maîtresse de conférence à l'Université de Savoie. Merci à vous. Prochain rendez-vous, c'est ce week-end. Week-end très riche, puisque samedi à 15h, nous aurons ici même une grande table ronde autour de l'égalité, mais avec des neurologues et des chercheurs dans différentes disciplines qui vont venir échanger avec vous. Et le soir, c'est la nuit des musées. Donc avec une approche décalée de nos expositions. Donc nous serons ouverts de 20h à minuit. Donc et vous êtes bien sûr les bienvenus une nouvelle fois. Et sinon, avec les beaux jours qui arrivent, eh bien, nous allons organiser des sorties sur le terrain à la découverte des vestiges glaciaires de notre région. Merci à vous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore le temps de déjeuner. Merci, au revoir.